France Culture.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Mathilde.
Allô ?
De l'équipe de France Culture. Oui, bonjour.
Je vous.
Merci.
Je vous.
Bonjour. Entrez, entrez. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
C'est un plaisir.
On va pas manquer de sujet de discussion.
Non, je pense pas. Je pense que. Mais en fait, ils sont pas tous à moi. Okay. Il y a mes bibliothèques et celle de mon compagnon, qui est un ancien éditeur. Donc évidemment, voilà. On n'a pas mélangé nos bibliothèques.
France Culture.
J'ai peut-être enlevé mon chewing-gum, non ? Ça sera mieux pour la radio.
Le Book Club.
Si j'ai bien compris, donc on doit parler de la bibliothèque. Et puis
voilà.
Ensuite, il y a les Syntex qui m'ont donné un mal de chien.
Ouais.
De chienne, plutôt, je devrais dire. C'est un pari difficile, hein, mais bon.
Dans la bibliothèque de Ruth Zilberman.
C'est très intimidant parce que c'est très intime en même temps, évidemment. La bibliothèque, les livres et tout. Mais
Mathilde Wagman.
Lorsqu'on a passé la porte de l'appartement de Ruth Zilberman cet après-midi-là, au deuxième étage d'un appartement parisien situé à quelques enjambées de la place Pigalle, on a su qu'on ne s'était pas trompé en imaginant que la lecture tenait une place fondamentale dans sa vie. Des livres partout, du sol au plafond, à peine le seuil franchi. La cinéaste est l'autrice d'une œuvre documentaire marquée par la recherche tenace de ce que les lieux nous racontent, de la façon dont ils sont habités, pour ne pas dire hantés, des enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, dans lequel elle retraçait la vie d'un immeuble sous l'occupation, jusqu'à son dernier film, Splendeur et misère de la maison Camondo, où le destin d'une famille juive d'Istanbul est raconté dans et par la demeure où ils ont vécu. Dans le livre qui prolonge le film sur l'immeuble de la rue Saint-Maur, elle a placé en exergue cette citation de Georges Perec. « J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Des lieux stables, immobiles, intangibles, comme des bibliothèques peut-être ?» La nuit était déjà tombée, il faisait bon dans l'appartement où la lumière était douce et de temps en temps, un chat noir venait discrètement nous observer. On ouvre la porte de chez vous et la première chose qu'on voit quand même, c'est des livres absolument partout. Donc il y a une première pièce où il y a une bibliothèque qui entoure un canapé et ça va du sol au plafond. Et puis il y a un grand couloir absolument, dont les murs sont absolument recouverts de livres. Et si je tourne la tête à 360 degrés, j'ai face à moi une bibliothèque avec deux portants. Puis si je regarde encore plus devant, vers une salle à manger, puis un salon, il y a aussi des livres au mur et au plafond, et ainsi de suite. Enfin voilà, il y en a absolument partout.
Il y en a un petit peu, il y en a un petit peu partout. C'est pour ça, de temps en temps, je fais quand même des évacuations. Mais vous savez, parfois, quand je suis très déprimée, je me dis, mais en fait, c'est un décor, presque. C'est pas vrai en plus que c'est un décor parce que c'est vraiment, enfin, c'est évidemment, vous vous doutez bien que c'est hyper important pour moi les livres. Mais parfois je me dis, mais en fait, tu te racontes une histoire. Va dehors, et c'est plus du tout un monde avec des bibliothèques partout et des livres partout. Et puis, ben, quand j'ai un peu plus le moral, voilà, c'est mes amis en fait.
C'est des présences.
Ah bah oui, c'est des présences, Ouais.
Et alors, vous disiez donc il y a une partie qui sont les livres de votre compagnon. Si on va vers les bibliothèques qui sont les vôtres, entre guillemets,
là,
on va vers
exemple, tout ça. Là, c'est chez moi. Ça, c'est plutôt la littérature ici, classée par grosse question, le classement.
Absolument. Et alors, le classement ?
Bah, c'est les aires géographiques. C'est vraiment les aires géographiques. Pour moi, c'est le plus simple. C'est comme ça que je m'y reconnais. Voilà. Mais enfin, et après, c'est un peu mélangé. Mais vous savez, j'ai un rapport un peu animiste, en fait, hein, à la bibliothèque. C'est-à-dire que parfois, je mets des copains les uns à côté des autres aussi. Ils n'ont aucun rapport, mais j'estime qu'ils seront bien l'un à côté de l'autre. Donc voilà. Mais là, en gros, bah, voilà, là, il y a la littérature russe, littérature de langue allemande, littérature centre-européenne, tchèque, beaucoup quand même, polonaise, voilà, enfin, américaine, française, enfin. Voilà. Et là, tout au-dessus, là, ce que vous voyez ici, ce sont les livres de mon grand-père. En fait, ici, c'est l'appartement de mes grands-parents, où ils se sont installés quand ils sont arrivés en France. Enfin, ils étaient locataires et tout. C'était aussi leur atelier. Là, il était fourreur sur cette table. Mais en fait, c'était, je crois, un très mauvais fourreur. C'était surtout un grand lecteur. Et donc, il avait beaucoup de livres. Donc, bon, moi, je ne l'ai pas connu de toute façon, mais j'en ai gardé quelques-uns, voilà, qui sont là. Et ben, c'est, en fait, ces livres, je pense qu'ils sont là depuis 1932. En fait, dans cet appartement, ils se sont installés, ils sont arrivés en France dans les années 30, ils ont dû s'installer ici en 32. C'est là que mon père a grandi.
D'accord. Voilà. Et donc, ces livres-là, vous savez, donc les livres de votre grand-père qui sont tout en haut, donc cette grande bibliothèque, vous avez gardé ceux-là précisément pour une raison particulière, ou c'est quoi? J'arrive pas à lire, en fait, parce que c'est tout en haut.
Bah oui, bah là, de toute façon, il faut monter là-dessus, puis j'ai pas, mais je sais ce qu'il y a à peu près, il y a pas mal de livres.
Staline.
Ouais, bah oui, il y a des trucs sur les procès, par exemple, sur les procès staliniens, des choses qui avaient été publiées déjà à l'époque, et puis il y a aussi un peu de littérature française, il y a du Gide, il y a aussi, enfin, je me souviens, ça, je sais pas s'ils sont là, mais moi, quand j'étais petite, je me souviens que je voyais ces livres et il y avait des livres qu'on lisait à l'époque, mais qu'on lit plus aujourd'hui. Il y avait du Panaeti Strati, enfin, bon, c'est super, mais je veux dire, c'était pas, il y avait plein de livres comme ça, un petit peu étonnants, qui étaient vraiment une bibliothèque aussi des années 30, quoi.
Alors, je décris quand même un peu vos livres à vous, donc sous ces livres de votre grand-père tout là-haut. Donc, j'ai en face de moi une grosse région Kafka.
Ouais, on va dire que lui, c'est un pays à lui tout seul, ouais, c'est un petit continent.
Les journaux, la biographie de Rainer Starr, en plus des livres de Kafka lui-même, beaucoup de livres sur Kafka, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, et dans cette région, des livres aussi sur Milena Jesenska, les femmes de Kafka, auxquelles vous avez consacré un documentaire pour France Culture. Qu'est-ce qu'on a d'autre au-dessus? Donc Pasternak, Tchekhov, Lebedev, ça c'est la région littérature russe, vous me corrigez si je dis des bêtises.
Il y a Gogol, il y a Marina Tsvetaeva, ça c'est aussi quelqu'un de super important, Pasternak, au-dessus là c'est plutôt de la littérature yiddish, là je vois Shalom Hash, Moscou, Pétersbourg, etc. C'est sûr que voilà, tout ça c'est quand même...
Des pays.
Des aires culturelles qui m'intéressent, on va dire.
Et c'est autant des livres dans lesquels vous piochez pour le plaisir que des livres de travail pour vous.
C'est pas des livres de travail pour moi. C'est absolument pas des livres de travail. Franchement, non, c'est plutôt le contraire en fait. Beaucoup des choses que j'ai faites, c'était sur des intérêts ou des envies ou des passions très préexistantes. Donc non, c'est pas. Enfin, moi, je les considère pas du tout comme des livres de travail. Je sais pas. Je vois Miloš, par exemple, Česlav Miloš. Bon, c'est quelqu'un de la pensée captive là. Puis j'ai pas mal de trucs de lui. C'est quelqu'un de très important pour moi. Donc non, je dirais, je sais pas comment en fait je suis venue à ça. Enfin bon, oui, évidemment, il y a l'explication familiale, mais je sais pas. Je pense que c'est aussi le fait, tout simplement, que ben, je suis la génération où j'avais genre 17 ans à la chute du mur de Berlin, quand même. Hein. Donc il se trouve que j'ai été à ce moment-là à Prague. Enfin, avant, j'avais été même avant la chute du mur. Et donc, j'y suis beaucoup allée. Et puis, donc, ouais, il y a la littérature tchèque, là, qui est très importante pour moi aussi. Qui n'est pas évidemment avec les Allemands, qui n'est pas avec Kafka. Mais vous voyez, ils ne sont pas trop loin quand même. On fait des diagonales. Donc, oui, c'est les amis, en fait. Vous voyez, là, il y a encore Miloš par Miloš, et puis au-dessus, il y a un livre de Tony Jute, l'historien, qui a beaucoup écrit sur l'Europe après 1945. Au-dessus, il y a la copine, je l'adore, c'est pas ma copine, elle est morte, mais c'est Eda Margolius, qui est la mère d'un homme que j'avais interviewé pour un film sur le procès Slansky, un procès tchèque, mais elle, je l'adore, Eda Margolius, par exemple, tenez. Alors, elle, je l'adore. Elle a écrit un livre qui s'appelle Hitler, Staline, Vaille. Par ailleurs, c'est une femme exceptionnelle. C'est une femme, c'était une femme de la bourgeoisie juive tchèque qui a été déportée avec son mari, qui a été déportée à Auschwitz et qui ensuite a survécu et puis qui après a vu donc son mari arrêté au moment des procès staliniens. Et par ailleurs, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Et je me souviens que j'avais regardé une interview d'elle faite par une très grande réalisatrice de documentaires tchèques. Et ça se terminait comme ça. Donc, elle racontait un petit peu sa vie, qui était assez tragique. Après 68, après le printemps de Prague, l'écrasement du printemps de Prague, elle était partie aux États-Unis. Elle est revenue en en République tchèque en 89. Enfin, c'était encore la Tchécoslovaquie à l'époque. Et alors, elle terminait comme ça. Et je trouve ça extraordinaire. Elle disait... But finally, I won. Finalement, j'ai gagné.
Hitler est mort, Staline est mort, et moi, je suis toujours là. Et voilà, c'est des gens... bon, ça, c'est sûr que c'est un peu... cette enfin, j'imagine que c'est des choses comme ça, même dans les textes que j'ai choisis et tout, c'est les gens qui survivent, quoi. J'aime bien ça. Donc, pour moi, c'est des... voilà, c'est des sortes de boussoles, donc ils sont les uns à côté des autres...
Est-ce qu'il y a des livres dans des bibliothèques à vous, dans d'autres endroits de la maison ?
Bah là, c'est un petit peu différent. Donc bon, là, il y a ma table. Alors là où c'est... bon, c'est les livres soit que je dois lire, soit que j'ai lu puis que je range pas. Mais enfin, bon, c'est un petit peu mon truc.
C'est une table basse, donc, hein, qui déborde aussi.
Et qui est à côté du canapé, parce que, alors ça, je dois dire que moi, je ne lis et je n'écris d'ailleurs pratiquement qu'allongée.
Ah.
Oui, ça, c'est un aveu que je dois faire. Je pense qu'on devrait lire que comme ça, en fait, pratiquement allongé.
Qu'est-ce que ça change de lire allongé ? Qu'est-ce que ça fait ?
Ah, je sais pas. C'est un abandon, peut-être. Même si ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des lectures très intenses et très précises. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que c'est un peu mon tapis volant, quoi. Vous voyez ce canapé-là.
On comprend, Ruth Zilberman, en voyant cette bibliothèque et rien qu'en entrant chez vous, que la lecture occupe une place importante dans votre vie. Ça commence quand, cette histoire, pour vous ? C'est depuis quand ?
Depuis toujours, j'ai l'impression. En fait, je pense que ma mère me lisait des histoires, j'aimais beaucoup ça. Dès que j'ai su lire assez tôt, j'ai plongé dedans, quoi. Ça a été, je sais pas, c'est un...
Depuis toujours.
Ouais, je dirais. Enfin, non, je ne savais pas lire avant 4 ans, je crois, 4-5 ans. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose de. Enfin, je veux dire, je m'en souviens encore, en fait. Il y a un continuum entre les histoires que ma mère me racontait et puis les moments où j'ai pu les lire toute seule. Et vraiment, oui, c'est ça, ça n'a plus arrêté. C'est. Ouais.
C'était quoi les histoires que. Votre mère vous racontait, c'était quel genre de...
Toutes sortes de choses, c'était beaucoup de contes, de tout. Vous savez, il y avait ces collections comme ça dans les années 70, il y avait des contes de tous les pays, etc. Et c'était des mémoires très précieuses. Après, moi, j'ai beaucoup lu à mes enfants. C'est quelque chose que j'ai continué à faire avec eux. Je leur lisais des... Des volumes entiers
de contes.
De contes et pas que. Non, je leur ai lu les livres que j'aimais moi quand j'étais petite. Ouais. Voilà. Donc, voilà.
Mais... Et dans les premiers chocs de lecture dont vous vous souvenez, il y aurait quoi ?
Ben, d'enfance, vous voulez
ouais.
dire ?
Les premiers grands chocs, quoi. Aussi loin qu'ils vous en souviennent.
Je pense que, par exemple, un livre que j'aimais... Alors ça, justement, ça, c'est une des choses que j'ai bougé avant que vous arriviez parce que je l'ai cherché. Mais en fait, c'est pas du tout l'édition originale que j'avais quand j'étais petite. Il y avait un livre que j'aimais qui s'appelait Cuore, Grand Cœur. C'était traduit. C'était d'un Italien. Ça se passait au 19e siècle pendant la réunification italienne. C'était un livre que j'adorais absolument. J'aimais beaucoup les petits Nicolas. J'aimais beaucoup Mafalda, je me souviens. Quand je m'identifiais beaucoup à Mafalda, une sorte de petit intello comme ça, qui a un avis sur tout et tout. Et puis je me souviens par exemple très clairement que dans ma bibliothèque d'enfance il y avait une édition, vous savez, Folio Gallimard jeunesse à l'époque, de Frankenstein de Mary Shelley ou Dr Jekyll et Mr Hyde, pardon, mais il y avait une couverture horrible et en fait cette vraiment, mais je me souviens, mes parents ont dû enlever ce livre parce que vraiment, j'ai eu des gros cauchemars avec ce livre. J'avais l'impression que les deux faces, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, allaient... Donc, j'avais un rapport, ouais, très... Mais que je pense que j'ai gardé, en fait. C'est ce que je vous dis quand je dis c'est les amis, etc. J'ai un rapport un peu infantile, je pense. Et au livre et à la lecture, probablement. Ouais, ouais.
En tout cas, les livres sont habités.
Ah, ça, c'est sûr. Les livres sont habités, non ça, les et bien sûr. Ah oui, non, ça c'est sûr, c'est certain, ils sont, c'est des présences quoi. Je me souviens, j'ai fait un film il y a des années avec Maurice Nadeau, avec qui j'étais devenue très amie.
Maurice Nadeau, grand éditeur français, éditeur. Qui a joué un rôle absolument fondamental immense. Dans l'histoire de l'édition française.
Immense éditeur. Et on avait eu cette conversation quand même sur les bibliothèques. Et je me souviens qu'il m'avait dit « Ouais, c'est un peu comme une nurserie, je me sens à l'aise ici. » Et puis après, il disait « C'est aussi un petit peu comme un cimetière, une nurserie, un cimetière. » On ne sait pas, c'est comme quand je vous dis, vous voyez, parfois j'ai l'impression que c'est un décor. Mais ça, c'est les moments, ça, c'est les jours de tristesse. Je pense que quand j'ai commencé ma bibliothèque, j'étais vraiment tellement dans la lignée, finalement, d'une...
d'un rapport à la lecture et d'un rapport au livre qui était, voilà, qui était celui de la petite bourgeoisie éclairée, etc. Et qu'on sent que maintenant on a changé complètement de paradigme. Mais malgré tout, je pense que c'est très 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 bien les livres. En fait, je pense aussi que c'est des instruments de combat. Il y a le chat qui arrive là.
Ah, mais on n'avait pas fait connaissance avec le chat.
Je pense que ça va lui faire vachement peur. Il est curieux et très dédaigneux. Donc de toute façon, voilà. Salut.
Ouais, il nous ignore de cette merde un peu, mais quand même, il est un peu intrigué.
Ouais, ouais.
On va voir si les lectures l'attirent. On va voir s'il vient écouter. On va peut-être s'installer du coup quelque part pour...
Alors j'ai un problème parce que cette lampe va falloir que j'arrive à l'ouvrir. Parce qu'elle marche pas très bien, il faut lui taper dessus. Et je sais pas trop le faire. Ah ! Putain, miracle ! Mais alors le problème c'est que si on s'assoit là par exemple, elle s'éteint. Donc attention. Bon, j'ai préparé les livres.
Super. Donc vous avez choisi 5 textes, Ruth Zilbermann, que vous avez bien voulu extraire de votre bibliothèque. On vous en remercie, c'était un choix difficile.
Ah oui, c'est très difficile, hein. C'est très très difficile, oui. Comment dire, c'est l'archéologie d'une vie quand même, hein, les lectures. Et puis, je veux dire, là, dans les textes qu'on va lire, il y a tellement... Il y en a beaucoup qui n'y sont pas.
Vous voulez nommer vos regrets parce que comme ça permet de...
Non, c'est pas... Ben là, par exemple, il y a beaucoup de littérature étrangère et c'est vrai que je lis beaucoup de littérature étrangère. Mais il n'y a pas des gens comme Hugo, par exemple, qui a été très important pour moi. Très important et qu'il est encore... J'avais jamais lu L'homme qui rit, je l'ai lu cet été. J'étais estomaquée, quoi. Nerval, Flaubert, Balzac, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup structuré. Et par ailleurs, que j'ai beaucoup relu aussi. Alors, parce que ça, c'est une vraie question, c'est la question de la relecture. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est toujours, mais très tôt, j'ai beaucoup relu. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a toutes les choses que j'ai pas lues, parce que j'ai aussi beaucoup relu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voyez, c'est toujours cette question de la familiarité, de la...
de l'arpentage, en fait, de la même manière que là, on est dans le 18e arrondissement, j'habite dans ce quartier depuis toujours, je marche beaucoup dans le 18e arrondissement, je veux dire, je marche aussi dans Paris, vous allez penser que je suis vraiment dans un tout petit monde, mais peut-être que c'est vrai. Et c'est comme marcher dans les rues, les mêmes rues. Et en fait, parfois, j'ai eu tendance à beaucoup, beaucoup lire, par exemple, Dostoïevski, quand même, qui a été très, ou Tolstoï, ça a été très. Ça, c'est des lectures que j'ai faites entre 15 et 20 ans, et que j'ai ensuite tout le temps relues. À tel point que maintenant, j'en suis arrivée à un moment où je suis très angoissée maintenant quand je vais dans une librairie. Je pense que c'est l'âge, parce que j'ai compris que je pourrais pas tout lire. En fait, je pense que j'ai vécu pendant très longtemps avec une sorte d'utopie ou de mouvement comme ça, où je me disais, mais non, mais j'arriverai à tout lire, je vais tout lire. Et en fait, non. Donc là aussi, je suis en train de me dire à toutes ces choses que je n'ai pas lues et que je vais lire. Et donc, il faut que j'arrête de relire. Mais en même temps, je relis beaucoup, donc je sais comment faire.
On va plonger dans les 5 que vous avez élus, dont je suppose que vous les relisez aussi régulièrement. Alors, je ne sais pas si vous aviez un ordre en tête. Moi, j'avais envie de vous proposer de commencer par deux poèmes de la poétesse de langue polonaise Zuzanna Giszenka. Je ne sais pas si...
Giszenka.
Alors, elle, voyez, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, moi, je préférerais... On va commencer par Proust. Parce que Proust, okay. On est quand même dans une maison... Et la maison de la lecture. Et Proust, c'est la fondation, en fait. Et Proust, par exemple, c'est vraiment quelqu'un, là, pour le coup, on va dire que Proust et Kafka sont vraiment les gens qui n'ont pratiquement jamais quitté ma table de chevet, que j'ai beaucoup lu et relu, qui ont construit extrêmement tôt et pour des raisons totalement différentes, mais mon rapport à la lecture, au monde. Donc, je dirais plutôt Proust pour commencer.
Alors, c'est un extrait du Côté de chez Swann, donc le premier tome de La Recherche du Temps Perdu. Ouais. Juste, vous, c'est un texte que vous découvrez à quel âge ?
La Recherche ? À 16 ans. Je pense que la première fois, j'ai commencé La Recherche et j'ai tout lu. J'ai passé un an, je pense, à lire La Recherche du Temps Perdu. J'ai même été à Cabourg, je me souviens, un hiver toute seule... J'ai passé un réveillon toute seule dans un restaurant, j'étais en train de lire La Recherche du Temps Perdu, les gens se disaient « mais putain, mais c'est qui cette femme ?»
Mais vous allez à Cabourg parce que vous lisez La Recherche ?
Oui.
Ah mais c'est intéressant parce que quand on sait à quel point votre travail, c'est un travail sur les lieux, beaucoup. Ouais. C'est un travail, vous ne cessez dans vos documentaires ou dans les livres qui parfois les prolongent, et dans les romans, vous avez aussi publié un roman, d'arpenter des lieux et d'essayer comme ça de dégager des lieux, une histoire, des présences, les fantômes. Auquel nous survivons, c'est intéressant qu'à 16 ans, vous disiez La Recherche et vous alliez sur l'un de ces territoires.
Bon, je me souviens très bien, c'était un hôtel très pas cher, donc il était assez loin du centre et que je me baladais comme ça sur la digue à 2h du matin pour rentrer, c'était complètement aberrant, mais oui, j'ai... Proust, c'est la lecture d'une vie, quoi. Et en particulier, d'ailleurs, du côté de chez Swann. Je pense que ce soit du côté de chez Swann ou Le Temps Retrouvé, c'est vraiment pour moi les deux tomes les plus importants pour moi, même si j'aime énormément tout ce qu'il y a entre, il y en a beaucoup. Mais ça m'a toujours aidé, vous voyez, des moments difficiles dans la vie, de toute façon. C'est très rare les moments où j'ai pas lu. Il y a des moments où pendant un mois j'ai pas pu lire. Et je sais que ce moment d'immense tristesse, d'immense détresse, celui avec lequel j'ai pu raccorder avec la lecture, ça a été Proust.
Ouais. Bon, alors on vous écoute.
Alors attendez, il faut que je retrouve la page. Il, son père, me regarda un instant d'un air étonné et fâché. Puis dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir. Reste un peu dans sa chambre, moi je n'ai besoin de rien. » « Mais mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. » « Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin, il a l'air désolé cet enfant. Voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a deux lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir, moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. » On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eût agacé parce qu'il appelait des sensibleries. Je restais sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire de l'Inde violet et rose qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli que m'avait donné Monsieur Swann, disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer toujours, et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et à des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman « Va avec le petit ». La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seule avec maman. En réalité, ils n'ont jamais cessé, et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau. Comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. C'est beau. Ce qui me fascine dans ce texte, hein, c'est... D'abord, comme rarement chez Proust, je trouve, c'est presque de la prose poétique. C'est-à-dire que c'est un passage où les... Vous remarquerez évidemment, alors il y a des trucs très bizarres dans ce texte, parce que il y a des choses comme de temps en temps chez Proust, on ne comprend pas grand-chose. Par exemple, toute cette histoire de le geste d'Abraham disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. J'imagine que, j'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'il y a des Proustiens et des Proustologues qui ont dû réfléchir pendant des siècles là-dessus, parce que en fait, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire, je ne comprends pas de quoi ça parle en fait. Parce que ça ne passe pas dans la Genèse. Enfin, alors est-ce que ça parle? Est-ce que c'est une sorte de condensation qui se passe et que en fait, ce dont il est question, c'est le sacrifice d'Isaac, mais qui aurait été fait par Abraham. Et le sacrifice d'Isaac, évidemment, dans cette page, ça serait très impressionnant, en fait. Si vous voulez, je suis pas une grande spécialiste de la Genèse, mais enfin, c'est quand même, je l'ai lu. Je ne comprends pas ce dont il est question. Donc déjà, ça, c'est une chose. C'est que parfois, chez Proust, il y a comme ça des condensations étonnantes. Évidemment, il réécrivait par-dessus. Mais là, je ne sais pas ce qu'il a réécrit. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Et en même temps, quelle force de l'image, de ce geste biblique. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, puisque évidemment, comme vous le savez, c'était la partie catholique, le père. Et c'est la mère qui venait d'une famille juive chez Proust. Donc c'est assez curieux comme les choses se recomposent là dans cette phrase. Mais surtout, vous voyez, c'est des phrases souvent assez courtes, très simples. Non pas que je n'aime pas la phrase hein, tout en détour, tout en chemin de Proust, tout en apposé. Vous savez, dans des livres, parfois, il y a des questions de rythmique, c'est-à-dire vous êtes dans un livre, vous êtes dans un flux, je suis très sensible au rythme des choses, et il y a tout à coup quelque chose, une espèce de condensation, où on sent en fait que là, on est dans un moment crucial. Dans les plus grands livres, évidemment, mais pas que, il y a quelque chose où tout à coup, ça se condense. C'est un élément crucial, parce qu'évidemment, celui qui parle, c'est celui qui entend tout à coup, qui entend les sanglots, c'est-à-dire on est avec le narrateur au temps de l'écriture. Donc il y a cette sorte de grand pont temporel comme ça qui se passe comme ça subrepticement, ce qui est quand même toute la question évidemment de la recherche. Et là, alors que d'habitude c'est marrant, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le déploiement, là on est dans quelque chose qui est extrêmement condensé. Et cette image, si vous voulez, c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour qu'on les croirait arrêtées, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Ça, c'est quelque chose qui me bouleverse, en fait. Qui me bouleverse parce que, en plus, par exemple, dans Guermantes, évidemment, il y a tellement de choses sur les bruits de Paris. Ça, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Les bruits, ce qui constitue notre espace. Et là, tout à coup, cette image, elle est lumineuse, quoi. Et par ailleurs, c'est un couvent. Ce qui, à mon avis, n'est pas un hasard. C'est-à-dire que, alors peut-être que ça serait, je le dis avec beaucoup de pathos, j'ai peut-être une tendance au pathétique, mais je pense que c'est pas un hasard si c'est des cloches de couvent, parce que ça désigne aussi, le côté religieux. C'est-à-dire que là, on est évidemment, enfin, je sais plus, il a écrit ça, j'imagine, avant la guerre. Enfin, ça doit être, c'est le premier tome, donc ça doit être 1912, 1913. Donc, il n'était pas encore complètement enfermé chez lui. Mais ça veut dire qu'il y a un moment quand même où il s'est enfermé chez lui, et que ça, c'est le couvent, pour pouvoir justement entendre les cloches du couvent, pour pouvoir entendre les sanglots de l'enfance. Mmh. Et parvenir à réentendre les sanglots de l'enfance, mais pas d'une manière pathétique, mais parvenir justement à en tirer le suc. Bon, ben, voilà. C'est pas mal.
Alors, vous avez pointer les œuvres complètes d'Isaac Babel. C'est un autre auteur que vous avez choisi de nous lire. On va vers celui-là, du coup ?
Ouais.
Allez. Alors, c'est un extrait de ce recueil qui s'appelle Cavalerie Rouge, qui est paru en 1926. Donc, le romancier russophone Isaac Babel, qui était né à Odessa en 1894, qui est mort assassiné en 1940. Et Cavalerie Rouge, c'est un recueil de textes courts qu'il écrit alors qu'il est correspondant de guerre pendant la guerre russo-polonaise, qui a lieu au lendemain de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de ce livre, de ce choix, ou vous voulez nous le lire d'abord et puis on en parle après ?
Il y aurait tellement à dire. Oui, juste la guerre russo-polonaise, ça se passe quand même sur les territoires qu'on connaît, les fameuses terres de sang dont parle Timothy Snyder, l'historien Timothy Snyder. Donc c'est, enfin, pour aller très très vite, parce que oulala, c'est tellement compliqué, mais en gros, évidemment, donc c'est entre les Polonais et les Ukrainiens indépendantistes et l'armée bolchévique, et donc Babel, il est du côté des bolcheviques, et donc là on se trouve au milieu de l'Ukraine, à Jytomyr en l'occurrence. Il y a aussi les Russes blancs qui se battent contre l'armée rouge, enfin c'est une sorte de, enfin voilà, c'est le territoire par excellence de la guerre. Mmh. Et inutile de vous dire que les gens, il y a des massacres de toutes parts, et que parmi ceux, évidemment, qui sont massacrés par les uns et par les autres, il y a l'importante communauté juive qui appartenait à ce qui avait été l'Empire russe. Et là, par exemple, à Jytomyr, c'était l'Empire russe. Et puis ensuite, on va vers l'ouest. Donc là, c'est ce qui va devenir la Galicie, la Pologne, etc. Donc, par ailleurs, mes autres grands-parents viennent de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine de l'Ouest, au sud de Lvov, au sud de Lviv, comme aujourd'hui ça s'appelle. Donc c'est sûr que c'est des régions qui m'intéressent. Mais alors Babel, par ailleurs, c'est le maître. C'est le maître, il est correspondant. Et puis il y a ses notes et il fait ses nouvelles qui sont... Bon, bah, je vais la lire. Alors je vais faire un petit montage.
D'accord, c'est extrait de cette nouvelle qui s'appelle Guédali, donc, et que vous allez nous lire dans la traduction signée Sophie Bénèche, qui est disponible donc, dans ce volume des œuvres complètes, paru chez Le Bruit du Temps.
Et c'est magnifique, cette traduction est magnifique, cette édition est magnifique, et je remercie Le Bruit du Temps d'avoir fait cette extraordinaire édition comme celle de Mandelstam, par exemple. Nous sommes assis sur des tonneaux de bière vide, Guédali enroule et déroule sa barbe étroite. Son haut de forme oscille au-dessus de nos têtes comme une tourelle noire. L'air tiède ruisselle autour de nous, le ciel change de couleur, du sang velouté s'écoule d'une bouteille que l'on renverse là-haut et je suis enveloppée d'une légère odeur de moisi. La révolution, on lui dit oui, mais est-ce qu'on peut dire non au Shabbat ? Ainsi commence Guédali et il enroule autour de moi les lanières soyeuses de ses yeux de verre fumé. Je crie oui à la révolution, je lui crie oui, mais elle se cache de Guédali et n'envoie devant elle que des coups de feu. Le soleil n'entre pas dans des yeux fermés, dis-je au vieillard, mais nous allons ouvrir les yeux fermés. C'est les Polonais qui m'ont fermé les yeux, chuchote le vieillard d'une voix à peine audible. Les Polonais, c'est des chiens méchants. Ils prennent les Juifs et leur arrachent la barbe, les sales chiens. Et voilà qu'on leur tape dessus à ces chiens méchants. C'est magnifique, c'est la révolution. Mais après, ceux qui ont tapé sur les Polonais, ils me disent « Donne-nous ton gramophone, Guédali, on va le comptabiliser. » J'aime la musique, Pani, je lui dis à la révolution. Tu ne sais pas ce que tu aimes, Guédali, je vais te tirer dessus, comme ça tu le sauras. Et je ne peux pas ne pas tirer parce que je suis la révolution. Elle ne peut pas ne pas tirer, Guédali, dit Jovillard, parce qu'elle est la révolution. Mais les Polonais, gentil panier, ils tiraient parce qu'ils sont la contre-révolution. Vous vous tirez parce que vous êtes la révolution. Mais la révolution, c'est du plaisir. Et le plaisir n'aime pas voir des orphelins dans la maison. Les bonnes choses sont faites par des hommes bons. La révolution, c'est une bonne chose faite par des gens bons. Mais les gens bons, ils ne tuent pas. Donc la révolution est faite par des gens méchants. Mais les Polonais aussi sont des gens méchants. Alors qui dira à Guédali où est la révolution et où est la contre-révolution ? J'ai étudié le Talmud autrefois. J'aime bien les commentaires de Rashi et les livres de Maïmonide. Et à Jitomir, il y a encore d'autres gens qui comprennent. Alors nous tous, les gens instruits, on tombe face contre terre, on hurle à pleine gorge, malheur à nous. Où est-elle la douce révolution ? Le vieillard s'est tu et nous avons vu la première étoile qui pointait le long de la Voie lactée. Le Shabbat commence, a déclaré Guédali d'un air solennel. Les Juifs doivent aller à la synagogue. Panier camarade, a-t-il dit en se levant. Et la tourelle noire de son haute forme a tangué sur sa tête. « Amenez à Jitomir un peu de jambon. Ça manque dans notre ville. Ah, ça manque vraiment. Amenez-nous des gens bons. Et on leur donnera tous nos gramophones. On n'est pas des ignares. L'international, on sait ce que c'est l'international. Moi, ce que je veux, c'est l'international des gens bons. Je veux qu'on comptabilise chaque âme et qu'on lui donne une ration de première catégorie. Tiens l'âme, vas-y, mange, je t'en prie, et que la vie te donne du plaisir. » L'international, panier camarade, c'est vous qui ne savez pas avec quoi ça se mange.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Ruth Zilberman. Mathilde Wagman.
On a bien compris que les jambons, ce sont des gens bons et non pas des jambons.
Des gens, G-E-N-S, en deux mots, plus loin, bons.
Écoutez, oui, c'est ce texte, c'est tout Babel, c'est-à-dire c'est un texte qui fait 2 pages et demie et puis on a tout quoi. On a alors évidemment ça me touche particulièrement parce que c'est là il y a beaucoup d'humour dedans. Alors panier, vous savez, c'est le mot polonais pour dire monsieur, donc Guédali fait les deux, il dit et monsieur et camarade parce que on sait jamais hein. Donc
Il a un instinct de survie extraordinaire parce que c'est la condition de ces juifs pris entre différents feux de l'histoire, hein, ceux qui font la révolution d'un côté, les Polonais haïsseurs de l'autre, hein, les Polonais dévorés par la haine des juifs. Et lui au milieu, qui est ce personnage absolument bouleversant et attendrissant et qui dit quelque chose de la longue histoire des Juifs dans ce territoire qui court sur tout le XXe siècle, d'une certaine manière.
Vous avez tout dit, c'est tout à fait ça. Et en même temps, chez Babel, il n'y a jamais de pathos. Il est très drôle et très ironique. Et d'ailleurs, vous savez, là, vous avez dit que ça avait été publié en 1926. Mais évidemment, il y a des textes qui ont disparu, etc. Parce que, je veux dire, Babel, il a eu un énorme succès avec la Cavalerie Rouge. Mais ensuite, il a plus pu publié, et même quand c'était à nouveau publié, on notait, et puis il y avait des détails sur, par exemple, sur la fameuse cavalerie rouge de Boudienny, qui était quand même, qui était le fer de lance de la révolution bolchevique, et lui, il n'avait pas peur de raconter les choses, de raconter les massacres, de raconter les vols, de raconter, il disait tout. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est quelqu'un de très ironique, de très centré. Et c'est ça que j'aime dans les livres, c'est que on nous redonne Guédali. Et on nous redonne Guédali en tant que personnage historique, évidemment, en tant que petit juif qui essaie de survivre, comme vous le disiez, mais aussi tout simplement comme un petit gars traversé par l'histoire. Comme on nous donnerait, j'imagine que sur le front en Ukraine aujourd'hui, on trouverait d'autres Guédali, mais on trouverait des Guédali. Et la littérature, c'est ça, quoi. C'est lancer son filet à poisson. Et en même temps, on nous ramène pas le poisson tout cru, hein. Je veux dire, il est très apprêté, il est très travaillé. Babel, il aimait Flaubert, il aimait Maupassant, il adorait Maupassant. D'ailleurs, il y a une très belle nouvelle sur une traduction de Maupassant. Il était très inspiré par ça. Il travaille, il nous le donne. Et c'est un don que j'accepte. Et je discute comme ça. Je le remercie de me l'avoir donné. Guédali.
Partant de là, on va vers quel texte ? Je vous laisse le choix, Zilberman.
Alors écoutez, je vous propose qu'on aille, on va faire les hommes d'abord et puis après on fera toutes les femmes. Alors, là je vais vous lire, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment en fait, que j'ai lu l'année dernière mais qui m'a tenu compagnie toute l'année dernière, qui est un livre magnifique. Et ça aussi, c'est génial quand il y a un livre qu'on découvre et puis tout à coup, il vous embarque. C'est un livre d'un auteur qui est mort, malheureusement, qui s'appelle Peter Kurzeck, qui est un auteur allemand. Donc moi, je lis pas l'allemand, mais c'est une traduction magnifique de Cecil Weisbrot, je tiens à le dire, parce que c'est, là encore, c'est vraiment une histoire de rythme. C'est-à-dire, alors là, l'extrait que je vais lire, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle En invité, où en gros, Peter Kurzeck écrit un livre, il vient de se séparer de sa femme, il n'a pas une thune, il est accueilli provisoirement chez des gens chez qui il peut écrire dans les combles, quoi. Il voit sa fille, et sinon, il marche dans Francfort. Et c'est tout. J'ai trouvé ce livre extraordinaire. Et par ailleurs, Peter Kurzeck, c'était la minorité allemande des Sudètes qui a été expulsée des Sudètes après la guerre. Donc c'est quelqu'un aussi qui avait connu, évidemment, à la fin de la guerre, l'exil, etc. Et à la fois, il raconte ce qui se passe autour de lui, mais c'est rien, c'est de la sensation. C'est quelqu'un qui travaille exclusivement sur le rythme et la sensation. Et en même temps, qui tente d'attraper le temps. Le sien. Et la manière dont il raconte son enfance, comment ça se mêle justement à ses balades dans Francfort, c'est incroyable. Et tout simplement, le temps de ses promenades. Donc, je vous le lis. Marchez vite, respirez profondément et les regards vers les lointains. Au-delà de la Zeil, vers l'Ostende, Hanauerlandstrasse, Ostafen-Offenbach. Nombre de vies inconnues que tu trimbales avec toi. Une charge, un poids et davantage de jour en jour. Plus jamais un mot à personne, ou ta vie désormais à chacun comme avec un violon de cigane, comme si c'était la sienne. Pas d'accordéon, un violon de cigane. Même pas midi, et tu ne voulais que quelques pas sur le Grüneburgweg. Juste du lait, vite, achetez un litre de lait pour moi et pour mon enfant. Et maintenant, là, avec d'incalculables pertes et profits, empêtré dans nombre de vies inconnues, et de tous les côtés, tout s'emploie à tenter de me convaincre sans arrêt. Trajet de retour, porte d'immeuble, enfant, femme et enfant, homme, femme et enfant. Tout appelle. Je nous vois partout encore. Retour, déjà sur le chemin du retour, ou ne pas de nouveau pouvoir faire demi-tour, les cloches ont-elles sonné? Parfois un vent tiède à midi, des voix d'enfants, parfois un moment, un instant clair venant à ta rencontre, comme si tu savais depuis toujours qu'un tel moment, que cet instant faisait partie de ta vie. Voilà. Il emporte tout avec lui. C'est comme je vous disais tout à l'heure, je voudrais tout lire. Et lui voudrait tout emporter avec lui. Ce livre me touche beaucoup parce qu'en fait, il met aussi en scène la question de qu'est-ce que c'est écrire. Et de qu'est-ce que c'est faire avec son propre temps, celui des autres. Et que le corps y est, et que l'espace y est, et que le souffle y est. Et que c'est ça, en fait, dont il essaie de rendre compte. Donc moi, je trouve que c'est un texte tout à fait merveilleux.
C'est étonnant parce que en vous écoutant le lire, tant que tu écris, tout est bel et bien permis, dit-il. Je pensais qu'il y avait des liens, c'est bien sûr des styles très différents, mais il y a des liens entre ce texte-là et le texte de Proust que vous nous avez lu tout à l'heure. Parce qu'il y a une dimension de prose poétique, parce qu'il évoque les voix qu'on entend. Il y a quelque chose de l'ordre de la sensation. Enfant, déjà, j'entendais des voix avant de m'endormir. C'est drôle, parce qu'il y a un écho entre ces deux textes-là.
Savez, même, je m'en suis rendu compte, là, en vous le lisant, les cloches ont-elles sonné?
Oui.
Les cloches. Mmh. Les cloches... il faut pouvoir les entendre, les cloches. Et donc, à la fois, c'est dans cette sorte de permanence, si vous voulez, de extérieur-intérieur. Toujours. C'est les bruits de la ville versus l'intérieur, enfin en même temps qu'ils se nourrissent évidemment l'un de l'autre. Et Cecil Weisbrot, je me souviens qu'elle avait écrit quelque chose sur ce texte que je trouvais très fort, c'est que c'est à la fois un texte du lieu, de l'espace et de l'errance. Mmh. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans ce livre, parce qu'il est très précis sur les trajectoires à Francfort, il vient toujours, les pauvres pizzerias dans lesquelles il va s'acheter un expresso, etc. Enfin, et en même temps, il n'arrête pas d'errer. Et le moment, en fait, où ça trouve une résolution, finalement, cette dialectique, c'est évidemment que dans l'écriture.
Mmh. Il nous reste deux textes à évoquer, Ruth Zilbermann. Vous voulez aller vers lequel?
On va peut-être aller vers Yana Tcherna. Alors, Yana Tcherna, c'est la fille de la grande, de l'immortelle Milena Jesenská, qui est très connue parce qu'elle a été la correspondante de Kafka, mais qui était une écrivaine à part entière, une femme extrêmement engagée et très peu conformiste. Et Yana Tcherna, aussi appelée Hanza Krejcárová, a été la digne héritière de sa mère. C'est une femme très space, très étrange, qui donc avait une vingtaine d'années dans les années 48, hein, quand il y a eu le communisme qui s'est installé en Tchécoslovaquie, qui était super anti-stalinienne, qui appartenait aux avant-gardes artistiques et en même temps on lui a enlevé ses enfants, elle a eu 5 enfants de 5 pères différents. Enfin, c'est une personnalité complètement qui ressemblait à celle de sa mère, très très peu conventionnelle. Et par ailleurs, ont été publiés d'elle en français un texte, alors dont le titre, là, l'éditeur, c'est formidable qu'il ait, mais il a évidemment, il a donné un titre qui attirait le regard, puisque ça s'appelle Pas dans le cul aujourd'hui, hein. Juste pour dire que s'il y a des éditeurs, elle a écrit beaucoup, ses œuvres sont publiées en tchèque, s'il y a des éditeurs qui écoutent cette émission, je pense qu'il faut traduire Yana Tcherna, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et donc, cette lettre, elle écrit, c'est une lettre à la fois érotique, de travail. C'est magnifique. Et elle écrit cette lettre. Mais merveilleuse, je recommande à tout le monde. Enfin, je voudrais que de temps en temps aussi, toutes les féministes de 20 ans qui m'ont appris beaucoup de choses, que j'aime, parce qu'il y a ma fille dedans et avec qui j'ai des grandes discussions, etc. Mais qu'elles sachent qu'il y a une histoire, qu'il y a eu des femmes avant elle. Et Yana Tcherna, c'est cette femme.
Vous allez lire donc un extrait de Pas dans le cul aujourd'hui qui est paru aux éditions de la Contre-Allée et qui est traduit du tchèque par Barbara Faure.
Voilà, alors je trouve juste la page. Évidemment, je ne l'ai pas marqué. Vous savez, Pas dans le cul aujourd'hui, c'est un poème. Et donc je vous lis juste le petit poème avant le poème, c'est ça. Pas dans le cul aujourd'hui, j'ai mal. Et puis j'aimerais d'abord discuter un peu avec toi car j'ai de l'estime pour ton intellect. On peut supposer que ce soit suffisant pour baiser en direction de la stratosphère. Voilà, je ne vous ai pas lu les passages les plus érotiques de la lettre, mais quand même, il fallait que je lise ce petit incipit. Elle écrit donc à Egon Bondy. J'ai aussi réalisé quelle immense aptitude à vivre nous possédons. Je ne veux pas seulement dire que nous avons refusé de collaborer dans les temps les plus durs, mais que nous ne nous sommes pas contentés d'y survivre. Nous avons su les utiliser et en tirer parti, que nous avons su les goûter et en faire notre miel, car c'est seulement en cela que réside la vraie viabilité. Survivre dans ce monde, même dans les circonstances où nous avons survécu, c'est de l'instinct de conservation pur et simple, même si cet instinct est parfois très fort et très puissant. Mais éviter que cela ne fasse de vous un mort-vivant, ça c'est quelque chose dont je dois remercier humblement le bon Dieu, avec une réelle gratitude. La vie en elle-même n'est pas un cadeau, en elle-même la vie est un enfer absolu. Mais ça, c'est plus qu'un cadeau, c'est peut-être quelque chose qui ne porte qu'un seul nom, la grâce. Et s'il est quelque chose qui me remplit d'optimisme et d'un espoir véritable, non l'espoir en quoi que ce soit, mais l'espoir en tant que tel, au sens le plus profond du terme, tel que j'en ai besoin pour être sauvé, tel qu'il est nécessaire à tout un chacun, car le salut ne peut lui venir qu'au nom de cet espoir, c'est la certitude de cette grâce, certitude empirique apportée par le vécu, non la certitude que nous avons reçu la grâce, mais simplement que la grâce existe. Voilà. Ne pas survivre comme des morts vivants, je pense que c'est un bon enseignement.
On va pouvoir aller vers votre dernier choix, celui par lequel je voulais commencer.
Je prends Rose Zilberman. Alors, je me suis rendu compte, comme souvent, c'est un livre que je dois avoir prêté, puis je ne sais plus à qui, et donc je ne le retrouve pas, je vais me le racheter. Donc là, j'avais quelques poèmes en...
Alors, pendant que vous le cherchez sur l'ordinateur, je précise donc que c'est deux poèmes de cette poétesse de langue polonaise dont je vais vous laisser dire le nom parce que je vais l'écorcher. Je peux dire qu'elle est née à Kiev en 1917, qu'elle est morte assassinée par les nazis à Cracovie, probablement en 1944. Ce sont deux poèmes qui s'appellent « Grammaire » pour le premier et « Non omnis moriar » pour le second, qui ont paru dans un recueil posthume qui s'appelle « Les centaures et autres poèmes », traduit du polonais par Isabelle Macor aux éditions La Barque, une édition bilingue qui a paru en 2024. La majorité des poèmes de cette poétesse est parue à titre posthume. Hein. Il y a eu un seul recueil, je crois, publié de son vivant en 1934. 36.
Elle avait 19 ans.
Alors, vous pouvez nous dire son nom.
Susanna Gitchenka, mais ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Sarah Ginsburg. Cette poétesse, c'est Rimbaud. Hein. Franchement, Susanna Gitchenka, c'est Rimbaud. Elle était russophone, elle a choisi d'écrire en polonais. Et vraiment, son premier recueil de poèmes qu'elle a fait à 19 ans, donc Les Centaures, c'est, je pense que la grammaire, ça fait partie de ce recueil-là. Elle est arrivée à Varsovie, elle était en plus remarquablement belle, très typée. Donc un physique biblique, hein, et vous savez que les physiques, ça a compté, parce que il fallait, même si on était très beau, il n'était pas bon d'avoir un mauvais physique, d'avoir un physique trop brun. Ça lui a joué des tours pendant la guerre. Elle a été reconnue immédiatement par toute l'avant-garde polonaise, par Julian Tuwim, qui était le grand monsieur de la poésie polonaise. Je pense qu'elle a aussi croisé Gombrowicz. Enfin, je vous jure, c'est Rimbaud qui arrive à Paris, quoi, en fait, hein. Et donc, comme vous le disiez, évidemment, elle a eu un destin très tragique pendant la guerre. Elle s'est cachée dans beaucoup d'endroits, notamment à Lviv, donc actuellement en Ukraine. Et puis finalement, elle a été dénoncée donc à Lviv. Et finalement, elle a été fusillée à Cracovie, probablement en 1944. Et le premier poème que je vais lire s'appelle « Grammaire ». Ce qui me fait rire, parce que vous savez, je suis nulle en grammaire. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à lire. C'est-à-dire que je comprenais rien, en fait, à la grammaire, mais je comprenais tout au rythme. Alors, grammaire, il commence par une parenthèse et trois petits points. Et s'incarner dans les mots si gaiement, s'amouracher des mots si facilement, les prendre dans la main seulement et les regarder comme un Bourgogne à la lumière. Les adjectifs s'étirent comme des chats et comme les chats sont faits pour les caresses. Les chacalins, doux et chauds, ronronnent une tendresse andante et maesto. Les chacalins ont dans les yeux des lacs et le vert des varechs qui croissent tout au fond. Je regarde en somnolant la pupille des chats, mystérieuse et cristalline et traître. Voici une masse et une forme, voici un contenu indispensable, le concret de l'essence des choses, la matière fichée dans le substantif et l'immobilité du monde, et la quiétude, et l'inertie, et la constance. Quelque chose qui dure encore et est le mot concentré dans le corps. Voici de simples tables et des bancs de bois dur. Voici des herbes frêles et mouillées issues des tissus végétaux. Voici une église rousse qui s'élance vers Dieu avec sa flèche gothique. Et voici un cœur humain, veineux, artériel, tout simple. Quant à l'adverbe, c'est un soudain miracle, la surprise des pierres à feu frottées. Il y a eu quelque chose, on ne sait comment, et maintenant, déjà à travers et par le biais d'eux et à deux mains, ça embrasse la pensée, certainement, tristement, et c'est bien. Les pronoms, eux, sont de petites chambres, où au rebord des fenêtres fleurissent de petits pots. Chaque recoin est un souvenir d'autrefois, et ils ne sont que pour toi et pour moi. Là, en vertu d'un abracadabra secret, s'épanouissent les règles d'amour algébrique. Moi, c'est toi, toi, c'est moi, équation, moi sans toi, toi sans moi, c'est zéro. Nous aimons, enveloppés dans les crépuscules, fouiner dans les petits mots comme si c'était des tiroirs. Moi, c'est toi, toi, c'est moi, équation, les pronoms sont aussi secrets que les fleurs, que de toutes petites chambres dans lesquelles on habite en secret, face au monde. Ainsi, donc prends le mot dans ta main et regarde-le à la lumière comme un Bourgogne et s'incarner dans les mots si gaiement, s'amouracher des mots si facilement.
Incarné dans les mots si gaiement. Vous savez, quand j'ai découvert ce texte que vous avez eu la gentillesse de nous envoyer, ça fait partie de ces phrases qu'on note sur des bouts de papier pour les apprendre par cœur ou pour les avoir comme ça, comme des modèles, je sais pas, des viatiques. S'incarner dans les mots si gaiement, s'amouracher des mots si facilement. C'est un peu comme la phrase dans le texte précédent. J'ai aussi réalisé qu'à l'immense aptitude à vivre, nous possédons. Il y a une force comme ça de... Ouais, l'image, la manière qu'elle a de formuler les choses qui est absolument saisissante. Et c'est un texte, évidemment, qui parle de qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que c'est que la poésie. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans ce texte-là, Rodil Berman?
Beaucoup, beaucoup de choses me touchent, mais je pense que, par exemple, les pronoms qui sont aussi secrets que les fleurs et aussi secrets que de toutes petites chambres dans lesquelles on habite en secret face au monde, et ben là encore, je me rends compte comment tout se fait écho. C'est toujours cette dialectique-là de l'extérieur et de l'intérieur. C'est-à-dire, il y a quelque chose chez elle de pas presque panthéiste, mais de joie, de vitalité, de, et en même temps, il y a ce, il y a les tiroirs, il y a les secrets, et il y a ce qui est en secret. Et je pense que écrire ne peut se faire, en un sens, qu'en secret. Même quand on est comme Gitchenka, dans cette sorte de... Les mots ne sont pas des choses abstraites pour elle. C'est dans les corps des filles, c'est dans les fleurs, c'est dans les... Et donc il y a ce, ce mouvement, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, centripète et centrifuge, qui me touche beaucoup, encore une fois. Parce que là, c'est l'acte d'écrire. Le dernier poème, il est beaucoup plus triste, évidemment. Il y a cette citation d'Horace, hein, « Non omnis moriar »,« Tout de moi ne disparaîtra pas ». Et c'est un poème qui a été retrouvé ensuite, je pense. Je ne sais pas exactement les circonstances dans lesquelles il a été retrouvé, mais c'est un poème très particulier, en dehors du fait qu'il est très, très beau. C'est qu'ensuite, elle dénonce, elle dit qui l'a dénoncé, elle donne son nom.
C'est un poème dans lequel elle évoque, elle parle de cette femme qui l'a dénoncé et qui a conduit à son assassinat.
Cette femme a eu un procès dans la Pologne d'après-guerre et c'est un poème qui a servi de preuve. Mm. C'est assez rare dans l'histoire de la littérature, mais finalement, je ne sais pas si c'est bien que la littérature serve de preuve dans les procès, mais en tout cas, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On pense que les mots sont inutiles, on pense que les bibliothèques sont mortes, mais non. Mmh. Elles ne sont pas mortes.
Qui a servi de preuve, hein, pour faire, qui a contribué à ce que cette femme soit condamnée. Elle a été emprisonnée pendant quelques années.
Et puis aussi, il y a quelque chose qui me touche particulièrement, et c'est des choses d'ailleurs sur lesquelles travaillent certaines de mes amies historiennes, sur la question de la matérialité dans la Shoah, parce qu'évidemment, ce dont parlent les objets... Les objets qu'on pique, les objets qui survivent, les objets, c'est aussi des corps. Je vais le lire. Non omnis moriar. Il restera de moi, mon fier domaine, les prairies de mes nappes, mes armoires forteresses imprenables, mes draps fins, mes larges draps et mes robes claires. Je n'ai pas laissé d'héritier ici-bas. Que ta main fouille donc dans toutes les choses juives, épouse chaumine de Lvov, vaillante femme de Mouchard, dénonciatrice zélée et mère d'un Volksdeutsch. Qu'elle te serve à toi. Oh tiens, pas des étrangers. Mes amis, ce n'est pas du vent, ce n'est pas un nom vide. Je me souviens de vous et quand vinrent les choupeaux, vous aussi vous êtes souvenus de moi et m'avez désigné. Que mes amis se réunissent autour d'une coupe, qu'ils noient dans l'ivresse mes funérailles et leur opulence, qu'ils liment ces tapisseries, vaisselles, chandeliers, qu'ils boivent toute la nuit et qu'aux lueurs de l'aube, ils se mettent à chercher l'or et les pierres précieuses dans les canapés, les matelas, les édredons, les tapis. Oh, ils auront de l'ardeur au travail, crin de cheval et foin de mer, partouffes, nuages de coussins éventrés, nuées de plumes s'accrocheront à leurs bras, les changeront en ailes. Et c'est mon sang qui lira les toupes au duvet tendre pour transmuer en anges ces créatures ailées. Ces créatures ailées. Il y a de la colère beaucoup, hein, aussi dans ce... Il y a de la rage, hein, dans ce poème. Donc, qu'on entende le génie et la rage de Susanna Gitchenka, qui est morte à 27 ans, c'est bien.
Eh bien, on va se quitter sur le génie et la rage. Un grand merci à Ruth Zilbermann de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir fait parcourir votre bibliothèque. Pour retrouver toutes les références des textes évoqués par Ruth Zilbermann, rendez-vous sur le site de l'émission où vous retrouvez aussi tous les autres épisodes de ses visites de bibliothèque. À la réalisation, c'était Louise André, à la prise de son Michael Simon, au mixage Ludovic Auger. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, Léa Weissgruss, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Cyril Marchand, Garance Roubieux et Alexandra Laïbegovitch qui poursuit la conversation sur le compte Instagram de l'émission.